Welcome back to Off the Hour on CKUT 90.3 FM. We will now go to the latest Montreal Media Co-op segment with Christian. For this edition of the Media Co-op, we will hear about Jacques from the Mouvement Action Chômage. He will talk about the temporary placement agencies. Then there will be a report by Melissa Libiani from the Halifax Media Co-op. She will present a piece on a rally that occurred on Labor Day. And finally, the Revolutionary Communist Party will talk about an imperialist demo, which will take place on September 11th, 2011.
Comme le disait Audrey, nous sommes sur le segment du Montréal Médicoop à montréal.medicoop.ca en collaboration avec CKUT 90.3 FM. Alors maintenant, nous allons parler avec le mouvement Action Chômage, avec Jacques plus particulièrement, sur les agences de placement temporaire et nos droits. C'est un atelier qui aura lieu le jeudi 29 septembre 2011 à 19h. C'est organisé par le mouvement Action Chômage avec une représentante au bas de l'échelle, Carole Henry, qui viendra nous présenter les mesures urgentes mises de l'avant par les deux organismes pour améliorer leur sort. Les deux organismes étant, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et au bas de l'échelle. Alors, bonjour Jacques.
Bonjour Christian.
Alors, tu peux nous parler un peu de ce qui en est des agences de placement temporaire et des droits en ce qui concerne l'atelier que vous allez organiser?
Ben, en fait, l'atelier qu'on organise ou la soirée, on a invité les deux organismes dont tu as fait mention, au bas de l'échelle, puis le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Eux font campagne depuis le 1er mai dernier pour mettre de l'avant des revendications pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses qui travaillent pour des agences de placement temporaire. Puis nous, on soutient cette campagne-là. On les invite à venir nous faire une présentation, nous expliquer de quoi il s'agit, dans l'optique de mobiliser pour une action qui va avoir lieu le 7 octobre. Donc, le 7 octobre, ça se trouve être on appelle ça la Journée mondiale pour la dignité du travail. Et ce jour-là, il va avoir une action organisée par les deux organismes là, pour promouvoir les droits des travailleurs et travailleuses des agences de placement. Le problème, c'est que les agences de placement temporaire, en fait, c'est un phénomène qui pullule en ce moment au Québec et au Canada. C'est un phénomène qui pullule parce que c'est très lié à l'augmentation de la précarité du travail. La précarité du travail, c'est un phénomène qu'on constate en gros dans tous les pays industrialisés depuis une vingtaine d'années, mais c'est particulièrement en accentuation depuis la crise de 2008-2009. Quand on parle de précarité du travail, on parle de jobs qui n'ont pas de sécurité d'emploi, on parle de jobs souvent mal payés, d'emplois à temps partiel avec où il n'y a pas de garantie d'heure. Et c'est typique, disons, ça participe d'une volonté de flexibilité accrue de la part des entreprises qui veulent avoir une main-d'œuvre de plus en plus malléable, de plus en plus flexible, qu'on va faire travailler juste quand on en a besoin, pour le nombre d'heures précisément où on en a besoin. Puis quand la job est finie, ben va-t'en chez vous. Puis les agences de placement, ce que ça vient faire dans ce contexte-là, c'est que ça facilite la job pour ces entreprises-là. C'est-à-dire plutôt que d'embaucher quelqu'un, d'avoir quelqu'un sur les listes de paye qui peut-être potentiellement va être syndiqué ou va être en tout cas à la limite minimalement protégé par le peu de protection qu'offre la législation du travail, bien on dit on va plutôt c'est une forme de sous-traitance dans le fond, plutôt que d'embaucher quelqu'un, on va appeler une agence, on va faire rentrer du personnel pour une journée, deux journées, trois jours, le temps qu'on a besoin, puis ensuite on n'a plus besoin de payer. Puis pendant qu'ils sont là, bien, on n'a pas besoin non plus de payer de charges sociales, on n'a pas besoin de payer de cotisation à la CSST, de cotisation à l'assurance chômage. L'agence nous facture, on paye l'agence, puis on s'en occupe plus. Peu importe ce qui va arriver avec ces travailleurs, ces travailleuses-là. Donc, quand on dit que ça pullule, c'est qu'aujourd'hui, présentement au Québec, il y a 1200 agences de placement temporaire en fonction. Ça, c'est celles qui sont officiellement recensées. Il y a certaines agences qu'on connaît même, qui n'existent même pas officiellement parce qu'ils se spécialisent dans le travail au noir. Et, donc c'est un phénomène qui est en développement. Puis le problème, il y a bien des problèmes qui sont liés à ça, mais un des problèmes, c'est que s'il arrive quelque chose comme une situation de harcèlement en milieu de travail, un employeur qui paye pas toutes les heures supplémentaires, ou peu importe, là, qui respecte même pas le minimum de législation qui existe, soi-disant pour protéger les travailleurs ou les travailleuses, bien, c'est quoi le recours qui existe pour exercer un recours, si on va en commission des normes du travail, bien, il va tout y avoir un débat pour savoir c'est qui l'employeur. Parce que légalement, souvent, l'employeur, c'est l'agence. Mais le vrai employeur, celui dans l'entrepôt ou dans le shop où tu travailles, mais c'est la compagnie qui est la cliente en fait de l'agence. Mais c'est contre qui que tu fais une plainte s'il arrive une situation où tu es victime de discrimination, de harcèlement, où on te paye pas toutes tes heures. Là, ils vont se renvoyer la balle. L'employeur va dire ben c'est pas moi, c'est l'agence. L'agence va dire ben non, là, c'est mon client qui est l'employeur. Puis là, le temps que la commission des normes va faire une enquête pour déterminer c'est qui le vrai employeur. Puis si on détermine que c'est l'agence qui est le vrai employeur, mais comment rendre l'agence responsable comme employeur d'une situation de harcèlement qui a été faite par le client de l'agence? En tout cas, ça cause tout un tas, ne serait-ce que pour appliquer le minimum de protection sociale qui est supposée exister, ça pose un tas de problèmes. Puis c'est pour ça qu'au bas de l'échelle, puis le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants ont lancé une campagne là, pour essayer de s'assurer qu'au moins les travailleurs et travailleuses d'agence aient la même protection. Puis encore là, on parle d'une protection minimale, mais qu'une même protection que tous les autres travailleurs et travailleuses au Québec.
Ouais, c'est un peu un système qui joue au yo-yo avec les travailleurs et les travailleuses, en fait.
Oui, c'est exactement ça, et ça cause... Et dans quelqu'un qui voudrait se, mettons, faire une plainte pour congédiement illégal, disons, si cette personne, parce que l'entreprise où cette personne-là va travailler depuis un mois, six mois, un an, parce que des fois, même si on parle de placement temporaire, c'est des affectations qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, même plusieurs années. Mais la personne qui a été victime, mettons, d'un congédiement illégal puis qui veut faire une plainte, comment elle va faire pour prouver qu'elle a été congédiée? En réalité, elle n'est pas nécessairement congédiée parce que il y a son employeur réel, qui est la compagnie où elle va travailler, qui dit je veux plus te voir ici, j'ai plus besoin de toi. Mais elle est toujours à l'emploi de l'agence qui peut-être va l'affecter ailleurs, dans une autre entreprise, pour peut-être moins d'heures ou un salaire plus bas, tout ça. Mais officiellement, cette personne-là n'est jamais congédiée. Qu'elle ne peut même pas faire une plainte pour contester son congédiement. Donc, effectivement, on joue au yo-yo, puis on profite souvent de travailleurs et travailleuses en situation de vulnérabilité, parce que, à part certaines agences, peut-être qui se spécialisent dans du travail là, de pointe là, dans le secteur informatique, tout ça, beaucoup de ces agences-là, c'est du travail d'entrepôt, du travail d'ouvriers, ouvrières non spécialisés. Et la clientèle, entre guillemets, de ces agences-là, c'est les travailleurs, travailleuses immigrants. C'est des gens qui arrivent ici, qui viennent juste avoir leur permis de travail ou qui n'ont pas leur permis de travail, qui connaissent pas leurs droits, qui connaissent pas les recours qui existent, puis qui ont souvent cette seule alternative-là pour travailler, parce que tu te pointes à l'agence le matin puis t'envoies travailler à quelque part. Il y a souvent de l'ouvrage de disponible, mais c'est beaucoup, beaucoup au salaire minimum, quand c'est pas moins que le salaire minimum, parce que ça aussi, on voit ça à l'occasion.
Sans un contexte où il y a des difficultés à recevoir le surchômage, puis des difficultés aussi avec les resserrements des conditions d'accès à l'aide sociale?
Oui, effectivement. Puis même au niveau de l'assurance chômage, le problème devant lequel on peut se retrouver, quelqu'un, en principe, qui quitte son emploi n'a pas le droit à l'assurance chômage. Mais il existe des situations où quelqu'un peut quand même avoir droit à l'assurance chômage. Comme par exemple, si tu as un job à temps plein, puis qu'on te fait passer à du temps partiel, puis tu as une baisse de salaire de 30-40% à cause de ça, tu peux justifier ton départ volontaire, puis te mettre sur le chômage, puis de réclamer ton chômage. Par contre, si ton employeur, c'est une agence de placement temporaire, quand même ça fait 6 mois que tu fais du 40-45 heures par semaine, si tout à coup l'agence te donne juste du 20 heures, puis que tu demandes du chômage, ben là, au chômage, ils vont dire oui, mais c'est pas, même si tu faisais du 40 heures semaine, c'est pas vraiment une baisse de salaire, parce qu'en réalité, en travaillant pour une agence, tes heures sont jamais garanties. Fait que t'as pas de salaire garanti. Fait que tu peux pas venir te plaindre que ton salaire a baissé, puisque de toute façon, ton salaire était pas garanti. Dans les faits, ton salaire a peut-être baissé. On a vu des cas, nous autres, de 45% de baisse de salaire. Puis la commission d'assurance chômage a dit oui, mais tu peux plainte-toi-en pas, parce que de toute façon, avec une agence, tu n'avais pas d'heure garantie. Donc, ta décision de quitter ton travail à l'agence parce que c'était plus suffisant pour subsister, ben c'est ton choix personnel, on ne te donnera pas d'assurance chômage. Fait que c'est une situation vraiment... C'est vraiment quand on faut l'inscrire dans un contexte général de crise et de d'augmentation de la précarité. Puis là, on prend les travailleurs et les travailleuses les plus vulnérables, puis là, on les tord pour retirer le maximum d'eux autres. Puis on les met dans une situation où ils sont dépourvus de recours. Fait que la campagne vise à présenter des revendications très minimales du genre que la même manière que quelqu'un qui veut ouvrir une agence de voyage au Québec, il faut qu'il s'inscrive au ministère du Tourisme puis qu'il dépose un montant d'argent en garantie au cas où des clients auraient des réclamations parce qu'ils n'ont pas eu le voyage qu'ils voulaient. Bien là, toutes les agences seraient obligées d'aller chercher un permis au ministère du Travail et de déposer un montant en garantie comme ça. Et les agences seraient co-responsables avec les employeurs réels. Comme ça, si jamais il arrive une crosse, que quelqu'un, par exemple, travaille des heures qui ne sont pas payées, ben il va pouvoir exercer le recours autant contre l'agence que l'employeur réel. Puis les deux seraient autant responsables légalement. Ça me semble être une revendication très, très minimale, mais qui n'existe même pas actuellement dans l'état actuel du droit du travail au Québec. Puis c'est des choses comme ça que les deux organismes revendiquent, que nous, on appuie.
Alors, si les gens veulent en savoir plus, si vous voulez en discuter plus, vous allez aussi sûrement parler des solutions, la question des droits des gens, la question de la situation aussi, pour commencer. Donc, ouais. Tout ça le jeudi 29 septembre 2011 à 19h au 6839A rue de Relais, au troisième étage.
C'est ça.
Et vous devez confirmer votre présence par courriel sur Facebook ou par téléphone au 514-271-4099.
C'est pas obligatoire de confirmer, mais c'est apprécié. Et s'il y en a qui veulent plus d'informations comme telles sur les revendications, tout ça, allez sur Internet, puis tapez au bas de l'échelle dans Google, vous allez vous retrouver sur leur site, puis il y a une présentation assez complète là, de la situation des travailleurs et travailleuses des agences.
Et si on veut en savoir plus sur le mouvement Action Chômage, ben c'est MAC Montréal, donc macmtl.qc.ca.
C'est exact.
Alors, je remercie beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bienvenue.
Alors maintenant, nous allons continuer sur la chronique ou le segment de Montréal Média Coop, montréal.mediacoop.ca, avec Labor Day Rally, un enregistrement de Mélissa Albiani, qui dit « The September 5th, 2011 Labor Day March Rally and Barbecue brought hundreds of people to go the day to the South Commons in Halifax. The annual event is organized by the Halifax Dartmouth and District Labor Council. » Je vous laisse en savoir plus à travers ce reportage.
Next up is President of the Federation of Labor, Brother Rick Clark.
We're here today to celebrate the accomplishments that we've made collectively over the years. And unfortunately, we find ourselves while we're celebrating those accomplishments and gains that we've made as workers and unions, we also find ourselves fighting to maintain those benefits in many, many fronts, as well as trying to fight to maintain jobs in the public sector at all levels. And it's a task that we have before us. We have lots of work in front of us, sisters and brothers, and lots of challenges. And I want you to know that the Nova Scotia Federation of Labor is fully committed to and support and work with our affiliates at each and every struggle that confronts the workers and their families in this province until we make gains and gain justice and dignity for all.
We'll have a Labor Day classic, Joe Murphy and the Water Street Blues Band.
Wake up, mama.
It's union members and other working class folks that have built this country. The history of this country is not the history of prime ministers. It's not the history of bankers. It's not the history of business executives. It's the history of people who built railroads, who deliver health care and educate our kids, who build towers and ships. It is our history. We've built this country, brothers and sisters. The labor movement is about more than collective bargaining. We want a better world. We want dignity and good green jobs with pensions for all. We want a world that is built on compassion, that is built on empathy, and most importantly, that is built on justice. Brothers and sisters, what we want for ourselves, we want for everyone. Next
up, brothers and sisters. I am very pleased to announce Premier Daryl Dexter, leader of the Nova Scotia NDP, and a friend to workers in this province, brothers and sisters.
On October 1st, the minimum wage will be increased to $10 to bring these workers up to the low-income cutoff and out of poverty. We continue to support improvements to the Canada Pension Plan. And we also strengthen the superannuation plan here in Nova Scotia, bringing it to fully funded status while reducing its cost to ordinary Nova Scotians. We increase the maximum fine available under the Occupational Health and Safety Act. And we have hired and trained more health and safety inspectors, making our workplaces safer and healthier. These improvements were made possible because of the government's strong relationship with you. And I can assure you that we will continue to work with you to further strengthen labor relations and improve working conditions in the province.
We're really, really happy to have with us as our first act the Tom Fun, members of the Tom Fun Orchestra, who will be performing Cape Breton protest songs from a new album they're putting together.
Tom Joe's Hill Road, up the foggy coast, down around the woodlot and the stream. Paper mill has closed, holes on the windows, there's a setting sun on each and every dream. Up atop the hill, there lives a widow still, who remembers hearing that old work whistle scream. All that she knows is tied up in the ghosts of the workers returning home on fields of green. Tom Joe's Hill Road, that lonely old outpost, a thought that passes with each who drives on by. Train tracks, sprouting trees, and a damp September breeze. The widow closes the curtains with a sigh.
That was a report from Melissa Albiani. C'était un reportage de Melissa Albiani intitulé Workers on Labor Day. Capitalism isn't working for workers, but workers are rallying for change. Parlant de le capitalisme ne fonctionne pas pour les travailleurs, les travailleuses, comme on en parlait aussi avec Jacques au tout début et avec le reportage de Melissa. D'ailleurs, pour le reportage de Melissa, vous pouvez aller sur halifax.mediacoa.ca pour en savoir davantage. Maintenant, nous allons parler d'une manifestation qui s'intitule « Montréal en solidarité avec les luttes des peuples, manifestation anti-impérialiste, anti-imperialist demo » avec Pierre du Parti communiste révolutionnaire. Alors, bonjour Pierre.
Ouais, bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette manifestation-là et pourquoi vous allez manifester le 11 septembre, ce jour célèbre?
Justement, parce que c'est un, non, c'est un jour célèbre, mais on pourrait dire que fondamentalement, on voulait saisir la date historique pour mettre le doigt sur quelque chose qui nous semble plus important que toutes les espèces de cérémonies officielles qu'il va y avoir des différents gouvernements et ramener l'attention sur la grande majorité de l'humanité qui souffre encore des politiques de l'impérialisme. Et on peut dire qu'il souffre, qu'il souffrait avant le 11 septembre et qu'il a continué à souffrir après le 11 septembre. Et même que, pour être un petit peu baveux, on pourrait dire que les morts du 11 septembre sont des victimes collatérales des politiques impérialistes de leur propre gouvernement, donc du gouvernement américain.
Ouais, c'est une longue histoire, en fait, ce qui s'est réellement passé le 11 septembre 2001. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a toutes les théories imaginables pour expliquer ce qui s'est passé, autant sur la job intérieure que sur les méchants islamistes, semble-t-il, qui auraient attaqué les tours. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées là-dessus. Mais pourquoi ça reste important de faire une manifestation ce jour-là?
C'est surtout pour faire... la démonstration est assez simple. Ici, on sait, dans les pays occidentaux, on est frappé par la crise et on voit que dans bien des pays, les difficultés sont immenses pour les pauvres travailleurs et travailleuses, les femmes, la jeunesse. Et on voit que dans les pays qui sont dominés par nos propres pays, ce phénomène-là, il est identique. Et donc, il y a cette pauvreté croissante, cette famine qu'on voit là ces derniers jours se développer, mais la misère, l'exploitation, puis on peut dire aussi toutes les guerres d'agression qui ont été menées depuis le 11 septembre sous le couvert de la lutte au terrorisme, ça a eu ses effets. Juste pour l'Irak, selon les chiffres qu'on prend, on présente comme un magazine comme le Lancet, qui est pas reconnu pour être le phare de la révolution, qui évalue entre 600 000 et 1 million de morts. Donc, on peut voir que cette politique-là, elle existe. Nos gouvernements, comme au Canada, le Canada le fait en Libye, s'attaque à d'autres pays, à d'autres peuples. Et on voulait aussi en même temps démontrer que ici, on n'est pas nécessairement solidaire ou on n'appuie pas du tout les politiques du gouvernement. Donc, il faut montrer aux peuples du monde que ces politiques-là, c'est des politiques impérialistes et c'est pas les nôtres. Et
donc, ça veut dire que la guerre est à l'intérieur autant qu'à l'extérieur aussi.
Oui, effectivement, parce qu'ici, ça prend d'autres formes. Ici, c'est plutôt la criminalisation de la dissidence. Ailleurs, c'est la diabolisation des mouvements qu'on prédit qui sont plus fermes versus l'impérialisme. Quoi qu'on soit d'accord ou pas dans tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils peuvent dire, il n'en demeure pas moins que ces mouvements-là font face à l'impérialisme d'une façon beaucoup plus prononcée qu'ici. Mais, on veut dire, on peut voir qu'ici et là, que ce soit en Grèce, en Italie, en Angleterre, que ça commence à changer un peu. Et il faut, comme à quelque part, chercher à unifier les luttes ici, cette lutte-là contre, on pourrait dire, le grand couvert de la lutte au terrorisme, qui est vraiment une lutte d'extermination des travailleurs, des travailleuses, des femmes, de la jeunesse, pour relancer l'économie capitaliste. Donc, il faut faire cette unité-là avec les autres exploités dans le monde. Je pense que la date, elle est significative, parce que pour les capitalistes, c'est comme un drame, c'est quelque chose de super désastreux, alors qu'on pourrait dire que, de façon générale, pour les peuples, les travailleurs et travailleuses, ça a uniquement fait ressortir le caractère réactionnaire du système capitaliste en général. Puis, tranquillement, on peut dire que ça fait son bonhomme de chemin et que peu à peu, il y a une ouverture beaucoup plus grande à comprendre un peu les phénomènes qui se passent dans le monde, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes ici, pourquoi est-ce qu'il y a des révoltes. Le peuple se soulève. Comment ça se fait qu'à des endroits où il y a des pays où c'était longtemps appuyé, les dictateurs appuyés longtemps par les pays capitalistes, d'un coup les gens se sont révoltés. Tout ça vient comme nourrir le fait que depuis le 11 septembre, c'est pas une date importante en soi, mais c'est de nous montrer que les choses ont changé qualitativement, puis que dans cette qualité-là, l'impérialisme américain, il a perdu beaucoup de plumes. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que c'est le plus grand perdant, parce qu'on pourrait croire qu'il a gagné, mais il semble que, tranquillement, il perd beaucoup de sa force.
Ouais, la manifestation dit « Lutter contre la crise, la guerre et la terreur, c'est lutter contre l'impérialisme. Pour la lutte des peuples et la solidarité internationale, manifestons notre solidarité avec les peuples qui luttent contre l'impérialisme. »
Oui.
L'impérialisme, ici comme ailleurs, dans son ensemble.
Oui, c'est ça. Dans toutes ces manifestations, c'est-à-dire, donc, ici, on peut pas dire, ça prend pas exactement la même forme qu'ailleurs, mais se démontrer que ce ailleurs et ce ici, ils se confondent. On pourrait dire que c'est le même ennemi qui prend accuse de moyens différents, mais c'est fondamentalement le même ennemi. Puis, des fois, il y a des choses qui chevauchent. On a chapancé ici la chasse qui a été faite dernièrement, mais que depuis le 11 septembre, aux immigrants et immigrantes, surtout ceux et celles qui naissent du Maghreb, c'est un indicateur. Ça se passe ici, en ce moment, mais c'est quand même un indicateur de la proximité ou de ces luttes-là et comment ils peuvent se confondre. Et comment la lutte supposée contre le terrorisme, c'est en fait une lutte contre tout ce qui est le mouvement de résistance au capitalisme organisé ici et ailleurs, là. Et on voit partout les exemples, les peines, la répression, les peines criminelles sont beaucoup disproportionnées par rapport à ce qui se fait. Là. On peut pas dire que...
On va devoir conclure.
OK.
En fait, c'est un peu une invitation à la résistance puis à la manifestation qui aura lieu donc le 11 septembre de 14h à 17h. Bon, en tout cas, c'est écrit de 14h à 17h, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'une manifestation finit.
Non,
surtout une manifestation anti-impérialiste organisée par le Parti communiste révolutionnaire. Il faut quand même s'attendre à ce que les gens s'organisent pour aller à cette manifestation-là. Ce ne sera pas une manifestation avec des grosses pancartes très gentilles et puis tout ça. Ça risque d'être une manif qui est quand même un peu confrontationnelle.
Je dirais plutôt militante. Parce qu'on tient compte quand même qu'il va y avoir des... On pense, là, on cherche à à rassembler beaucoup d'individus, de personnes, de groupes, mais beaucoup d'individus qui peuvent venir de communautés qui ne sont pas nécessairement, peut-être leur première manifestation à vie en réalité, mais de faire ce lien-là qui est beaucoup, au départ, on va dire, politique, c'est-à-dire dans la rue ensemble, c'est déjà un premier pas. On pense pas qu'on va révolutionner la journée, mais on pense que déjà là, ça va être peut-être une habitude qui va se créer de que les forces qui veulent vraiment combattre le capitalisme.
Pour une manifestation anti-impérialiste le 11 septembre, comme on fait une manif des travailleurs et des travailleuses le 1er mai.
À quelque part aussi dire, on n'a pas besoin d'attendre un événement suscité par l'impérialisme pour dire, ben nous on a des intérêts communs, puis on est capable de prendre la rue pour les défendre ensemble. Donc on n'a pas besoin d'attendre un sommet ou je ne sais trop quoi qui pourrait ou quelque chose n'écœurantrer du capitaliste parce qu'il y en a.
C'est tous les le temps qu'on avait.
Ah ben merci.
Je te remercie beaucoup.
Les gens seront là.
Ouais, ben tout à fait. Puis donc c'est le 11 septembre, 14h. Et puis merci. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur montréal.medicoops.ca ou cherchez Parti communiste révolutionnaire ou Mouvement révolutionnaire ouvrier parce que c'est l'adresse qu'on a, c'est mro@pcr-rcp.ca. Ça, c'est l'adresse contact qui a été mise sur Montréal Medicoop si les gens veulent contacter les gens qui organisent la manifestation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'est aussi parce qu'on criminalise la résistance qu'elle doit être forte.